Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Des policiers, matraques à la main, qui brutalisent, nassent et gazent des réfugiés venus camper sur la place de la République à Paris pour attirer l'attention sur leurs conditions de survie catastrophiques. C'était lundi soir, le 23 novembre, et même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en est ému et a tweeté, je cite, « Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au préfet de police d'ici demain midi. » En réalité, ces violences n'ont rien de nouveau, ni même d'étonnant, même si elles ne cessent de choquer. Cela fait des années que les associations, ONG et certains journalistes ou chercheurs dénoncent les violences policières dont sont régulièrement victimes les réfugiés sur le territoire français. Le 21 janvier 2018, par exemple, souvenez-vous, un appel lancé par l'écrivain Yann Moix dans le journal Libération commençait par ces mots. « Monsieur le Président de la République, chaque jour, vous humiliez la France en humiliant les exilés. » L'écrivain dénonçait un protocole de la bavure, je cite encore, et des actes de barbarie commis à l'encontre des migrants par les forces de l'ordre. Il affirmait avoir tourné à Calais des images à l'appui de ses propos pour un documentaire destiné à la chaîne Arte. Peu après, le jeudi 25 janvier de la même année, lors d'une violente opération anti-squat à Calais, un érythréen de 16 ans perdait un œil à la suite d'un jet de lacrymo, du moins d'après les associatifs présents sur place. Une enquête de l'IGPN était ouverte. Début février 2018 également, d'autres scènes toujours plus violentes avaient lieu dans la zone industrielle des Dunes, dans le même coin, lors d'affrontements avec des armes à feu entre des migrants érythréens et afghans en marge d'une distribution de nourriture, laissant certains blessés dans des états très graves. Et ça, c'est un mois à peine de vie à Calais. Alors, imaginez les 15 ans de drame, d'évacuation, de solidarité, de rebondissement, de tribunes et de diatribes, de maraudes, de violences, de procès, de mesures d'urgence, de distribution de nourriture, de rixes, de construction et de destruction, d'accélération. 15 ans d'une histoire qui, à Calais et dans les environs, se répète désespérément, juste en plus grave et en plus dur. Tout de suite, pourtant, nous sommes là pour vous raconter, une fois n'est pas coutume, une aventure réjouissante. Il y a des réfugiés, des bénévoles et des méchants qui deviennent gentils. Mais comme souvent, dans les pieds sur terre, ça n'est jamais gai très longtemps. C'est un récit de Clément Baudet intitulé « Calais, maraude et ratonnade ». Tout de suite dans les pieds sur terre, c'est parti.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bon, alors je suis Patricia, j'ai perdu mon travail l'année dernière. Après, je me suis mise avec Salam et c'est une association qui vient en aide aux réfugiés. Et franchement, elle fait du bon travail. Puis voilà, depuis, je suis avec eux. C'est parce qu'une fois, en sortant de chez moi, j'ai rencontré des jeunes érythréens qui dormaient à même le sol. Et puis je me suis dit, comme j'ai perdu ma fille aînée, je me suis dit que c'était pas normal qu'on traite des gens comme ça, quoi. Souvent, je poste des commentaires sur Facebook, mais comme j'ai marqué « J'aime la page La Voix du Nord, Littoral, etc. », donc on reçoit tout ce qui se passe, tout ce qu'ils écrivent, quoi. Et quand je vois qu'on parle des réfugiés, puis que c'est faux, je peux pas, j'arrive pas à supporter. Donc si je le vois, je suis obligée d'aller poster un com. C'est plus fort que moi. Souvent, dans les commentaires, je vois la haine des Calaisiens. Ils sont toujours en train de dire comme quoi ils doivent repartir chez eux, qu'ils en ont rien à foutre d'eux, qu'ils ont qu'à crever, ou bien alors, le bateau, ils ont qu'à le trouer, comme ça, ils vont tous mourir dans la mer. On les met en ligne par 10 et on leur tire une balle dans la tête, comme ça on économise les balles. C'est toutes des choses horribles, quoi. Toutes des choses horribles. En plus, à Calais, on est déjà dans une ville où on a beaucoup de chômage, où ils devraient les comprendre, quoi. Tant donné qu'ils savent très bien qu'eux, déjà, ils vivent dans la misère, pas la misère, mais bon. Ils vivent pas pire qu'eux, parce que eux sont dehors, ils sont dans le froid, 24 heures sur 24. Nous, on sort faire les courses, on en a quoi pour une demi-heure, on a déjà froid et on se dépêche de rentrer. Eux, ils sont 24 heures sur 24 dehors, donc eux, ils sont toujours dans le froid. Et moi, je le vois au matin quand je les croise, même en ville, quand je me promène, que je les croise, ils sont gelés. Et en ce moment, je vois qu'ils sont très tristes en ce moment. Ils ont le sourire pour nous, pour pas nous faire voir qu'ils sont malheureux. Mais on le voit qu'ils sont malheureux, qu'ils en ont marre de comment on les traite, tout ça. Un jour, j'ai écrit un commentaire sur une personne qui était très haineuse et on a discuté. C'était sur Facebook, oui. C'était un monsieur qui faisait partie de Sauvons Calais, c'est la haine des réfugiés. C'est un mouvement comme le Front National, on pourrait dire. Il a voulu me répondre en me disant ce qu'il pensait sur eux, tout ça. Et après, il m'a dit message privé, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. On a discuté et il m'a raconté sa vie à lui. Mais moi, je lui ai dit, si vous voulez, moi, je vous invite à venir les rencontrer de près. Au moins, vous les verrez et vous pourrez dire qu'est-ce que vous en pensez. Et il m'a dit oui. Je lui ai dit, moi, je fais des maraudes. Vous pouvez venir tel jour pour la maraude. Il m'a dit oui. Il est venu me rejoindre. D'abord, déjà, en premier, il m'a dit, c'est quoi une maraude? Parce qu'il dit, on m'avait invité une fois à une ratonnade. Une ratonnade, c'est on prend un réfugié et on le tabasse. J'ai dit, nous non, on prend personne, on tape personne, on est pour que tout le monde se sente bien, quoi. Et nous, c'est seulement, vous venez avec moi, vous m'accompagnez, on va leur donner du déjeuner, ce qu'on a à pouvoir leur proposer chaque matin. C'est bien parce que j'invite souvent les gens, mais c'est la première fois que ça m'est arrivé que cette personne a accepté. Et maintenant, elle travaille avec moi en bénévolat à Salam. Mes collègues de Salam, ils ont dit, ça va, t'as réussi à en ramener un, quoi. Surtout, en plus, c'était quand même un face-à-face, quoi, ce qui fait partie de l'autre côté, quoi. Alors au début, quand ils ont rencontré Romuald dans la première maraude, les gars, ils le regardaient bizarrement parce qu'il est habillé comme il est, on dirait plutôt un Allemand, quoi, avec les bottes, le pantalon. Moi, ça m'a fait rire. Après, maintenant, ça va, il est très très ami avec eux.
Romuald, 37 ans, donc ancien vendeur. J'ai grandi sur Calais pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai pas mal bourlingué. Je suis descendu en région parisienne, je suis descendu du côté de Lyon, je suis descendu du côté de Nice. J'ai pas arrêté de monter et de descendre. Je suis revenu sur Calais, donc ça devait être en 2014. En parallèle, donc j'avais pas vu ma fille depuis plusieurs années, depuis quasiment 10 ans. Donc j'ai retrouvé ma fille ici en revenant sur Calais. Le jour où j'ai retrouvé ma fille, il y a eu une rencontre avec 4 migrants, dont un qui lui a mis une main au derrière, chose que j'ai pas appréciée. Donc j'avais le choix entre soit partir et le défoncer, soit rester avec ma fille et les 3 migrants qui étaient restés et laisser l'autre en toute impunité. Forcément, je suis resté avec ma fille. Pas longtemps après, donc en me promenant dans les rues de Calais, en cherchant un endroit pour aller boire un coup, je suis tombé sur une ancienne camarade de classe qui attendait devant un café. Elle m'invitait à une réunion, en fait c'était Sauvons Calais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, c'était un groupe qui était contre les migrants. Quand je suis rentré, moi, de toute façon, quand on m'a dit ce que c'était Sauvons Calais, comme j'avais la rage aux tripes, je me souviens, je me suis dit, oui, ça va être ma place. J'ai été ce qu'on appelle un militant passif. Donc j'allais simplement en manifestation, j'allais au meeting, mais après, ça s'arrêtait pas plus loin, quoi. On manifestait tout simplement, on se mettait des banderoles, et puis voilà, quoi, après c'était terminé. C'était stop à l'immigration, Calais, ville morte, foutons les dehors, go home, ou des trucs comme ça, quoi. Ça allait pas plus loin. C'était pas plus violent que ça. Il y avait pas de propos vraiment, avec la rage aux tripes, hein. Et après, ça a été rejoint, donc, par le Parti de la France. Ensuite, il y a eu Civitas, il y a eu Pédiga. Il y a toute la sphère qui s'est greffée petit à petit. Et après, c'était un boxon pas possible. Quand ça a été politisé, quand il y a eu des meetings, il y a eu des réunions où, une fois que les caméras étaient parties, les termes qui étaient utilisés étaient vraiment très violents. Il y a eu les termes gazage qui ont été utilisés, il y a eu les termes extermination, il y a eu pas mal de trucs comme ça. À partir de ce moment-là, moi c'est pas mon truc. Qu'on gère l'immigration, qu'on ferme les frontières, qu'on s'occupe déjà de ce qu'il y a ici avant d'accueillir toute la misère du monde, je suis pour. Mais de là à gazer un mec parce qu'il n'est pas de la bonne religion, entre guillemets, ou de la bonne couleur de peau, il y a quand même tout un monde. Donc, j'ai pris mes distances. C'était simplement que c'était aussi radical, c'était pas mon truc. Moi, je m'informais beaucoup par tout ce qui était blog patriotique et tout ce qui s'ensuit. Il y avait Civitas, il y avait Million de Résistance, il y avait... De toute façon, j'étais abonné à pas mal de trucs, moi. Je recevais tout directement dans la boîte mail, donc... je suis tombé sur une vidéo qui devait... dont une agression dans un hôpital avait eu lieu dans le sud de la France. Et quand j'ai fait pause image, derrière, c'était écran en russe. Donc en fait, ça s'était passé à Saint-Pétersbourg. Et là, je me suis dit, ils sont vraiment en train de nous prendre pour des cons. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est nous monter, c'est nous enrager davantage, jusqu'à ce qu'on pète un steak, et eux, ils s'en lavent les mains, puisqu'en fait, c'est les basses classes qui s'occupent de faire le ménage à leur place, quoi, en fait. C'était une fake news, puisque ça avait été trafiqué. L'information était fausse. C'était erroné, ça s'était passé en Russie. Donc forcément, moi, j'ai pris mes distances, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, tout ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est de la merde. Ce sont des conneries à l'état pur. Sur tous les faits qu'ils sont en train de nous dire, il y en a peut-être 1 sur 10 qui est réel. Tous les autres, ils sont simplement en train de nous monter, de nous gonfler. D'essayer de nous mettre les épaules vraiment bien chargées pour qu'on soit prêt à péter un steak et à foncer sur tous ceux qu'on croise. Donc moi, à partir de là, j'ai carrément pris mes distances. J'ai préféré directement m'informer par moi-même. Actuellement, je consulte toujours ces sites-là. Mais en même temps, je regarde l'information et la contre-information. Et j'étais en train de répondre à certains sujets donc sur la page de Nord Littoral, donc, qui est un journal local. Et donc il y a quelqu'un d'autre qui venait, qui me contrait en fait à chaque fois. Et on a commencé à échanger directement sur la page du journal, donc sur la page Facebook du journal, et on a terminé en message privé. C'était encore une fois en rapport un peu avec l'immigration, bah c'était comme d'habitude quoi en fait, parce que souvent c'est vrai qu'elle postait, j'avais déjà remarqué qu'elle postait pas mal dans ces sujets-là, bah moi forcément aussi, et tout en étant modéré, on avait quand même des points de vue assez différents. Donc on est resté à discuter comme ça pendant à peu près une ou deux journées, comme quoi les maraudes, c'était pas du tout l'idée qu'on s'en faisait, les migrants n'étaient pas du tout l'idée qu'on en avait. C'était en gros, oui, ce qu'elle me disait, comme quoi bah fallait vraiment être sur le terrain pour voir. Et donc moi, j'avais sorti donc les sources qu'on avait forcément par rapport aux journaux nationalistes et tout ce qui s'ensuit pour un peu la tester, voir sa réaction. Et c'est là qu'elle m'a proposé de venir à une maraude. Au début, je me suis dit, soit elle est en train de se foutre de ma gueule, soit elle est en train de me tester. Et en fait, elle était tout à fait sérieuse. Donc je suis rentré dans le jeu et ben, je suis allé à la maraude. Donc je m'attendais à voir des barbares déchaînés, hein, faut dire ce qui est, par rapport à tout ce qu'on voit quand même ici, parce que on est calé, c'est une situation très spéciale. La frontière anglaise, même si elle Brexit, elle reste ici. Nous ici, pour qu'un Calaisien puisse gagner sa vie, il a intérêt à investir dans le barbelé ou dans les clôtures. Parce qu'il suffit de passer au port, on a l'impression d'être dans un camp de concentration pour pas le gamin qui passe au-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. La rocade, on passe dessus. Avant, on pouvait voir ce qu'il y avait à côté. Maintenant, c'est des murs avec des barbelés au-dessus. Ici, c'est grillagé dans tous les coins. C'est hallucinant. Cette ville, c'est pire en pire. Donc le premier jour où je suis arrivé, on était au Verrochaire. C'est là où, à la base, il y a le plus de monde. Quand on est arrivé, il devait y avoir à peu près 250 personnes la première fois. Sur le coup, je me suis dit quand même, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Je me suis dit, mais par rapport au nombre de mecs, au nombre de femmes parmi les bénévoles et au nombre de mecs à côté, je fais, si jamais ils se mettent à péter une durite, les bénévoles sont morts. Ça, ils n'ont pas intérêt à les froisser ou quoi que ce soit. Et pourtant, ben, dès qu'il y en a un qui a mis le souk, le mec s'est fait recadrer, ils sont pas bronchés. Je me suis dit, waouh, ça, déjà, avec ça, ça n'avait rien à voir avec l'idée que j'en avais. Ensuite, les voir arriver avec les chaussures trouées, les semelles complètement décollées, quand on dit sur les sites patriotiques que les mecs, ils ont des bifetons plein les poches, qui se promènent avec des liasses, que c'est limite s'ils sont pas la Banque de France, si le mec était la Banque de France, ils ne s'emmènerait pas en guenille. Bon, sur le coup, par rapport à mon look, Rangers, treillis, crâne rasé, ils m'ont pris pour un flic. Donc les mecs se sont bien méfiés. Donc après, j'ai commencé à parler, parce que parmi eux, il y a un gars qui parle très bien français. Donc un Érythréen qui parle extrêmement bien français. Avec lui, le contact est passé tout seul. Je sais pas si c'était le fait qu'il parlait français ou je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. On a commencé à papoter. Donc après, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. On a commencé à parler en anglais. Il y a plein de contacts comme ça qui sont établis, mais de manière naturelle. On a commencé à plaisanter autour d'une tasse de thé. C'était... J'ai halluciné. Après, il m'a expliqué comment il vivait sur place. Les mecs sont à 5, parfois dans une tente. Des fois, ils ont même pas des bâches sur les côtés. C'est juste des palettes, donc des trous avec une toile au-dessus. Les mecs n'ont strictement rien. Les mecs n'ont pas de pognon. Nous, dans ces conditions-là, on se jetterait déjà sous un train. On tiendrait pas. Nous, on se suicide. On va voir les Afghans. Les mecs vivent dans un marécage. Ça pue. Il fait froid. C'est la boue. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui était décrit, avec ce qui était dit. On m'aurait foutu un coup de couteau dans le ventre, c'est exactement pareil. Parce que le choc a été d'une brutalité, ça a été d'une violence. J'ai descendu, je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est descendre la moitié d'une bouteille d'alcool. Parce que fallait que je me remette une gueule de bois, de manière à après réavoir les idées claires. Parce que je suis rentré, j'étais pas net. C'est comme un mec qui venait de se faire plaquer, ou je sais pas. Mais je suis rentré, j'avais un... Comme si j'avais pas arrêté de me prendre des coups, en fait. Quand j'étais entré à Sauvon-Calais, j'étais raciste et islamophobe. Mais quand je vous dis raciste, c'était raciste. Je pouvais pas les voir en peinture. Et pour moi, les musulmans, c'était tous des islamistes. Hein. Fallait tous... C'était même pas la peine. Fallait tous les flinguer parce que c'était nocif. Moi, je les voyais tous comme des terroristes. Et pour moi, un musulman modéré, c'était juste un terroriste qui attendait son heure pour passer à l'action. Maintenant, depuis que je côtoie donc les migrants ici, dont la plupart sont musulmans, ben, il y en a pas un, j'ai jamais eu de problème avec. Pourtant, ils savent que je ne suis pas musulman. Et, ben, on a déjà parlé de religion, ça leur a posé aucun problème. Donc, j'ai continué de faire les distributions avec Salam parce que les choses que j'ai vues m'avaient choqué. Ça n'avait pas du tout de rapport avec ce qu'on m'avait dit. Il y a des gens parmi les migrants qui m'ont touché. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de rester. Parmi les gens que j'avais croisés à Sauvon-Calais, donc par rapport maintenant au fait que je côtoie Salam et que je suis avec eux, il y a des liens qui ont été rompus, et pour d'autres, je suis devenu un paria, donc un traître. Bon, par contre, je revois toujours Patricia 2 ou 3 fois par semaine, donc c'est une bonne copine. Maintenant, si demain je devais retrouver donc un emploi, parce qu'actuellement je suis au chômage, ça n'empêcherait pas que, à mes moments libres, je retournerais distribuer des petits déjeuners. Si jamais j'avais des postes de l'après-midi ou quoi que ce soit, au matin, j'irais redistribuer des petits déjeuners, oui.
France Culture, les pieds sur terre.
Ben moi, c'est Youssef. Ça fait déjà 1 an que je suis sur Cala avec Utopia 56. Une asso humanitaire venant en aide aux migrants. Les faits se sont déroulés le 25 janvier, c'était rue des Verrotières, où il y a le point de fixation le plus important des migrants sur Calais. La distribution de repas a débuté, nous on était basés ici à l'auberge des migrants, au hangar. On a reçu un appel de personnes, de bénévoles qui étaient sur place, comme quoi la police est en train de ramasser les tentes, les sacs de couchage, c'est ce qu'on appelle nous un clinage. Quand on est venu sur place, il y avait un cordon de CRS qui empêchait les jeunes d'accéder à leurs affaires, d'accéder aux tentes pour récupérer leurs affaires personnelles, leurs effets personnels. Quelques minutes après, les tensions ont monté parce que la police a refusé l'accès aux jeunes. Il y a eu quelques projectiles lancés vers la police. Ensuite, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. Le nombre de personnes qui a été gazées, honnêtement, et, que ce soit chez les bénévoles des associations, Help Refugees, Utopia, l'auberge des migrants, on a tous reçu du gaz, parce que c'était une grosse lancée de gaz, en fait, pour dispersion générale. Donc même ceux de la vie active ont été gazés. Ceux qui sont venus présents pour distribuer l'eau, en fait, pour fixer les points d'eau, ont été gazés. Le paradoxe, c'est que cet assaut est même payé par l'État, en fait. C'est un organisme de l'État qui a été gazé lui-même aussi par les services de l'État. Quelques minutes après, on a vu 2 jeunes arriver en train de transporter un jeune en sang. J'ai couru vers eux, on a pris le jeune, on l'a mis dans la première voiture qui allait partir, dans la banquette arrière avec un autre jeune. Et ils sont partis aux urgences et le lendemain, on a su qu'il avait perdu son œil dû au projectile qu'il a reçu dans le visage. Quelques minutes après, il y a eu encore des jets de gaz pour disperser tout le monde. Une fois que le gaz s'est dissipé, la police a levé le dispositif parce que les services de la mairie ont fini leur travail de clinage, de ramassage d'effets personnels. En fait, la police, elle, quand ils viennent cliner, ils sont accompagnés de services de la mairie avec un camion ben qui viennent en combinaison blanche comme si c'était une zone de décontamination. Et ils rentrent dans les bois et ils vont détruire les tentes. J'ai déjà vu des policiers aussi le faire, détruire eux-mêmes des tentes. Et ils rentrent ouvrir des tentes et gazer l'intérieur sans la détruire pour que les personnes, quand ils vont rentrer dedans, soient gazées. La préfecture essaie de se couvrir. Toute violence policière est masquée ou essayer de la cacher aux yeux du public, mais elle est réelle et elle est quotidienne, même ici sur Calais. La préfecture, elle peut nier autant qu'elle veut. On a des images, on a des vidéos. Il y a eu des témoignages de plusieurs personnes, hors migrants, qui témoignent, qui sont prêts à témoigner. Et voilà.
J'ai 21 ans, je viens d'Afghanistan et ça fait un mois et une semaine que je suis à Calais avec mon frère. Et en fait, on était là, c'était vers après-midi, 3 heures exactement. Les policiers sont venus, ils avaient un haut-parleur, ils disent des choses en français. Après, ils ont commencé à évacuer les gens, et débarrasser les tentes, ils ont tiré quelques balles, il y avait des gaz partout. Et ils ont commencé à débarrasser toutes les tentes, tout ça, voilà. Il y a des gens qui sont des souvenirs de leur famille, de leur pays, dans leur sac à dos. Et le sac à dos, il était dans la tente. Donc, ils ont essayé d'aller le récupérer, mais la police, ils ne le laissent pas. En fait, ça a été violent. Il y avait des gens blessés. Il y en a un homme africain, garçon africain, qui a perdu son yeux. Il ne peut plus jamais le voir. Deux jours après, quand les policiers ont ramassé les tentes, il y a des organisations qui ont distribué à nouveau des tentes. Donc, moi, j'ai repris un et je dors dedans. À chaque semaine, les policiers la débarrassent. À chaque fois, ils viennent en disant dégagez-vous, dégagez-vous. Je pense qu'ils vont à nouveau revenir pour nous débarrasser de là. On n'a nulle part à cacher. On les laisse dans les arbres, comme vous pouvez le voir là ou à côté. Et les policiers, ils viennent les débarrasser. C'est simple que ça. On n'a pas d'endroit pour les cacher. Il y a beaucoup de violence policière, en fait, ici à Calais. Moi, j'étais interpellé par les policiers. Ils m'ont frappé. J'ai pris quelques coups de pied. Ça, c'était pour moi-même personnellement. Ils ont déchiré ma tente, tout ça. Ils ont gazé mon frère. Même s'il est dormi dans la tente, il le gaze ou il déchire les tentes. Il y a beaucoup de problèmes, en fait.
Je m'appelle Abeba, je viens d'Éthiopie. Et j'ai 32 ans. Ça fait 3 mois que je suis là. Et je connais la violence. Ça ne s'améliore pas, en fait. Le jeune qui a perdu son œil, en fait, c'est décourageant, c'est touchant. C'est vraiment touchant, puisque je le connais. C'est vraiment le jeune qui était tellement timide qu'il n'aimait pas la bagarre. Et cette fois-ci, c'est lui, l'innocent, qui a perdu son œil. Ça me décourage, puisque déjà voir les jeunes qui devaient avoir un futur dans leur propre pays et sont devenus des aventuriers pour passer en Angleterre. Et lui, son objectif, son espoir était juste de passer la frontière. Et maintenant, la personne est handicapée. Il a perdu sa vue. C'est un jeune homme éthiopien, il s'appelle Adana. Il a 16 ans, 17 ans. Et c'est un jeune qui ne sait pas ce que c'est la guerre. Là, on est au nord de la France. On est là juste pour passer la frontière, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes des êtres humains, on peut se communiquer. Mais comment on peut se protéger? On est fatigué, on est épuisé. On n'est pas armé, on n'est pas équipé, voilà. Eux, par contre, ils ont des armes. Il y avait un moment où je dormais, en pleine nuit, ils étaient venus m'en réveiller. La première chose qu'ils ont fait, c'est me taper et me gazer. Le quotidien chez nous, en fait, il y a les assos qui distribuent les tentes. Deux jours ou un jour après, il y aura la police qui viendra ramasser toutes les tentes. Nous sommes en plein hiver. On nous traite comme des animaux. Déjà, on ne peut pas se communiquer avec eux. Et la violence, ça doit arrêter. Et pourquoi prendre nos tentes? Où est-ce qu'on peut dormir? Les tentes pour nous, c'est notre maison. Et vous pouvez aussi comprendre si vous étiez dehors, sans couverture, sans tente, sans rien. Donc, votre propriété, en fait, c'est sur nos tentes. Elles nous couvrent de la fraîcheur, de l'humidité et de la pluie, en fait. Mon objectif, j'aime la France, j'aimerais rester en France. Mais je suis dublinais. Vu que je suis dublinais, je ne peux pas rester en France. Être dublinais, c'est être l'esclave des empreintes, au fait. Par hasard, en traversant les frontières, on se fait attraper par la police, on donne les empreintes. Et on est forcé de rester là, dans ce pays. C'est l'accord entre les pays européens. Le cas chez moi, c'est j'aimerais rester en France, mais je suis discipliné. Et je serai forcé de quitter la France. Et je suis l'esclave de mes empreintes. Les doigts, je ne vais pas les couper pour ne pas retourner dans le pays où j'étais. Mon objectif, c'est au fait avoir un avenir. Et certainement rester dans un pays francophone. Le Canada serait mon choix, en fait.
Kids must grow as quick as possible.
C'était Calais, ma route des ratonnades, un reportage de Clément Baudet réalisé par Jean-Christophe Francis avec un coup de main de François Connat, qui est diffusé pour la première fois le 8 février 2018. Sachez que depuis cette diffusion, Patricia est maintenant employée par l'association La Vie Active, qui vient notamment en aide aux réfugiés. Romuald, lui, a trouvé un emploi, il a arrêté les maraudes, mais il soutient toujours la cause des exilés sur les réseaux sociaux et sur ses posts Facebook. Et sur place, les associations continuent de dénoncer les violences et les expulsions. Merci à Patricia, Romuald, Yolène, aux bénévoles de l'association Salam, à Youssef, à Charlotte d'Utopia 56, à David, Jacob, à Bébé, Loan, Florence de Migration 59, Arthur Levivier, Thomas, Status, Alice et Alexandre Zemelissa Foust, attaché de production des Pieds sur Terre, et François Bréus, notre stagiaire.